Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette conversation privée où j'ai le plaisir de recevoir Pierre Messmer. Alors, je suis un peu perdu parmi tous les titres. Je dirais simplement ancien Premier ministre et chancelier de l'Institut. Merci d'être avec nous, Pierre Messmer. Pierre Messmer, dans vos mémoires, qui sont tout à fait passionnantes, vous parlez assez peu de votre enfance, et je vais tout à fait respecter cette discrétion, mais j'ai noté cependant que vous dites que ça a été une enfance heureuse.
J'ai eu une enfance très heureuse dans une famille unie avec un frère et une sœur. J'étais l'aîné. Mon frère a 2 ans de moins que moi et ma sœur est beaucoup plus jeune, a 7 ans de moins que moi. Et j'ai passé à Paris, boulevard Saint-Michel, une enfance très heureuse.
Alors, cette enfance heureuse est marquée par le patriotisme.
Oui, il faut comprendre que ma famille est une famille alsacienne. Et mon grand-père paternel a opté pour la France en 1871. C'est-à-dire qu'il a quitté l'Alsace, Marmoutier, qui est un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saverne, tout près de Sarrebourg, dont j'ai été pendant 18 ans le député-maire. Et mon grand-père avait fait ce choix délibéré de la France. Et naturellement, ce choix a eu de l'influence sur mon père
Bien sûr.
et sur les petits-enfants que nous étions.
Alors, quand on faisait ce choix-là, on n'était pas tellement récompensé.
Non.
J'étais frappé de voir qu'on l'a immédiatement envoyé pendant 3 ans.
Oui. Il y avait à l'époque, c'est assez étrange, une idée tout à fait différente de celle que l'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous explique qu'il faut vous aider, vous donner des indemnités, vous former à ceci ou ça. À l'époque, ce n'était pas ça du tout. Ce qu'on leur demandait, c'était de prouver qu'ils étaient de bons Français. Et la première preuve qu'ils devaient donner, c'était de faire leur service militaire.
3 ans.
3 ans à l'époque.
Oui.
Et mon grand-père a fait 3 ans de service militaire en Algérie.
Alors, cette France que l'on vous enseignait, à laquelle vous êtes resté toujours fidèle, j'ai noté qu'au fond, c'est la France de la langue, c'est la France des armes et c'est la France des lois. Est-ce que je me trompe?
Oui, ah, c'est la France de la langue, c'est indiscutable. Dans ma famille, où l'autorité paternelle était forte, la tradition, c'est qu'il était interdit d'apprendre l'allemand.
Ah oui, interdit d'apprendre l'allemand.
Alors que mon grand-père et ma grand-mère n'ont jamais parlé le français sans un accent alsacien horrible, eh bien, il était interdit d'apprendre l'allemand.
Est-ce que les Anglais
On
étaient...
apprenait l'anglais.
Oui,
On
alors...
apprenait l'anglais, éventuellement l'espagnol pour certains, mais jamais l'allemand. C'est en effet la France de la langue. Vous avez raison, si c'est la France des lois. Et je dirais que ces Alsaciens qui avaient opté pour la France étaient républicains, c'était très républicain.
C'était la France des armes aussi. Vous êtes né pendant la
Ah,
guerre de
alors là,
14-18.
ça, oui, c'est la France des armes.
Je pense que pour la génération, une génération comme la vôtre, qui était en fait la même que François Mitterrand, vous êtes
Oui.
né au même moment, dans cette France-là, le poids de la guerre de 14-18 pour un enfant, c'était très très fort.
Oui, parce que nos parents, nos oncles, leurs amis avaient tous combattu
C'est ça?
pendant la guerre de 14-18. Et par conséquent, cette guerre de 14-18 était présente. Était présente surtout chez les blessés. J'avais un cousin qui avait été terriblement gazé et qui est d'ailleurs mort dans les années 30. Et on le voyait souffrir. Alors, il y avait la France des armes. Puis, nous étions quand même, nous trompions, mais nous étions quand même fiers de la victoire de 1918. Et nous faisions quelques illusions sur l'armée française. J'ai commencé à perdre ces illusions au moment où j'ai fait mon service militaire.
Alors, de ça, nous allons reparler dans un instant. Une enfance harmonieuse, heureuse, des principes républicains, le patriotisme. A priori, on ne voit pas d'où vient ce goût de l'aventure. Et cependant, il y avait en vous un goût de l'aventure très marqué dès l'enfance.
Oui. Même quand j'étais très jeune.
Oui.
C'était le goût de connaître des pays et des hommes différents de ceux que j'avais autour de moi. Et puis, j'avais encore le rêve de découvrir des pays qui étaient peu connus ou très mal connus. La carte africaine de l'entre-deux-guerres n'a plus beaucoup de blancs. Mais enfin, il y a des lieux mythiques. Il y a Smara, par exemple, qui coûtera la vie à Michel Vieuchange. Il y a Tombouctou. Moi, je rêvais d'aller à Tombouctou. J'y étais plus tard. J'avais un goût spontané pour cela. C'est peut-être la réaction à la vie très bourgeoise que menaient mes parents.
Paisible, en fait.
D'une bourgeoisie, d'une petite bourgeoisie, mais d'une petite bourgeoisie très paisible.
Vous rentrez à l'école nationale de la France d'Outre-mer.
Oui, en 1934.
C'est ça, en 1934.
Je suis reçu dans une petite promotion, la plus petite des promotions, parce qu'on faisait des économies à cette époque-là.
Il y avait eu la crise.
Et c'est une promotion où nous étions 27. Ça ne correspondait pas du tout à la relève nécessaire des corps des administrateurs et des colonies.
Alors vous vouliez devenir administrateur des colonies.
Oui.
C'est ça.
Alors là, c'était pour moi la façon justement de m'expatrier et de m'immerger dans une civilisation différente. Mais c'était aussi parce que, vous savez, les jeunes sont très malins, ils se renseignent. J'avais compris que l'administration française était terriblement bureaucratique. Et j'avais compris aussi que l'administration d'outre-mer l'était très peu. Alors ça me plaisait.
Comment est-ce que vous perceviez la France ? Est-ce que vous vous rendiez compte que la France traversait une crise grave qui conduirait à l'asservissement, finalement, quelques années plus tard ?
Je me faisais des illusions, comme la plupart des jeunes. Parce que nous vivions dans le souvenir de la victoire de 1918.
C'est ça, on était marqués par ça.
Nos parents avaient été marqués par cela. J'en étais fier d'ailleurs. Même s'ils en avaient beaucoup souffert, ils en étaient fiers. Et nous en étions fiers aussi.
Vous n'étiez pas intrigué par les images qui parvenaient d'Allemagne, par exemple ?
À partir des années 35, oui.
C'est ça.
Alors, certains étaient sans doute intrigués. Je dirais que, pour ce qui me concerne, j'étais plutôt inquiété. Parce que... alors là, ce sont mes racines alsaciennes qui me font comprendre ces choses-là. Je sentais bien que tout cela risquait de tourner très mal. Et ça va être le cas très rapidement.
Est-ce que vous étiez au courant des controverses qui entouraient les premiers écrits et les premières déclarations de celui qui deviendra le général de Gaulle?
Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Oui.
Et je peux dire que même quand j'ai commencé mon service militaire en 1937 et jusqu'au début de la guerre en 1939, j'en ai quasiment pas entendu parler. J'ai commencé à entendre parler du général de Gaulle au début de la guerre, c'est-à-dire en septembre 1939, par des officiers de mon régiment qui, naturellement, s'ils ne le connaissaient pas, connaissaient ses livres, avaient lu ses livres, et qui, sous le choc du début de la guerre, ont commencé à en parler. Mais pas avant.
Les officiers qui parlaient du général de Gaulle, que vous entendez au début de la guerre, ils en parlent favorablement ou défavorablement ?
Ils en parlent assez favorablement, oui. Oui, parce que ce sont des coloniaux. Ils sont moins enfermés dans la stratégie, la tactique métropolitaine. Là, il y a une espèce de... une étrange contradiction. Le général de Gaulle n'aimait pas beaucoup les coloniaux. Pour une raison très simple, c'est parce que il pensait que les coloniaux avaient une expérience militaire qui n'était pas transposable sur le théâtre des opérations européennes. Il pensait, par exemple, que les coloniaux étaient en grande partie responsables de la défaite de 1870, parce que leur expérience, c'était l'Algérie, c'était le Mexique, et que ça a été une très mauvaise expérience aux yeux du général de Gaulle. C'est la petite guerre, si je peux dire. Le général de Gaulle n'aimait pas beaucoup les coloniaux. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en 1940, ceux qui vont le rejoindre sont des coloniaux et des légionnaires.
Vous faites votre service militaire avant la guerre,
oui.
Ce qui fait que d'ailleurs vous allez faire de longues années sous les drapeaux.
Oui. Je devais être libéré du service militaire au mois d'octobre 1939.
Oui, là c'était...
C'est-à-dire un mois après le début de la guerre. Alors je n'ai pas été libéré, j'ai été démobilisé le 1er janvier 1946.
Oui.
C'est-à-dire presque 9 ans après.
Est-ce que durant votre service militaire, vous avez pu avoir vos premiers contacts avec l'Afrique ?
Avec l'Afrique, non. Mais avec les Africains, parce que pendant ces 2 années de service militaire qui ont précédé la guerre, j'étais dans un régiment de tirailleurs sénégalais, le 12e régiment de tirailleurs sénégalais à La Rochelle. Et alors, je commandais des Africains. J'étais officier de transmission du régiment, je commandais donc le peloton de transmission du régiment, où il y avait 90 hommes, bien, il y avait 3 ou 4 sous-officiers français, mais tous les autres étaient des Africains, sous-officiers ou hommes de troupe africains. Et j'étais très heureux avec eux, et peut-être un peu naïf. C'est-à-dire que je faisais un effort considérable tous les soirs après le rompé pour leur faire des exposés soit de langue. Les sous-officiers africains parlaient le français, mais les tirailleurs beaucoup moins. Soit pour les sous-officiers, je leur faisais des exposés techniques sur les postes téléphoniques, la radio. Alors là, je dois dire que je passais un petit peu au-dessus de leur tête et fatigué par une journée de grand air, je m'apercevais qu'ils s'endormaient.
Alors je vous propose de quitter ces années de formation pour retrouver Philippe de Saint-Robert, à qui vous avez confié au cours d'un livre d'entretien tout à fait intéressant un certain nombre de réflexions. On écoute Philippe de Saint-Robert.
Il fera toutes les grandes aventures de la France libre, c'est sa grande période de baroudeur. Il sera à l'expédition ratée de Dakar, à l'expédition réussie de Libreville. Il sera à El Alamein. Il est ensuite envoyé en Indochine, où il sera parachuté, fait prisonnier. Il rejoindra Hanoï 3 mois après, là nous sommes à la fin de la guerre, et après la guerre, il fera un bref passage dans les cabinets ministériels, ça ne l'intéresse pas beaucoup, et il prendra son vrai métier, qui est celui d'administrateur de la France d'outre-mer, qui va se terminer à Dakar, au moment de l'indépendance du Sénégal. Il est le dernier gouverneur général de l'AOF. Mesmer a toujours été un partisan déterminé de la décolonisation. Il l'a été, c'est lui qui avait mis au point comme directeur de cabinet de Gaston Defferre, la fameuse loi cadre, qui a quand même préparé l'autonomie des pays de l'Afrique subsaharienne, et il pense rentrer dans le civil. Le général de Gaulle le convoque et lui dit « Je veux que vous soyez ministre des armées, n'en dites rien jusqu'à demain matin parce qu'il faut que je prévienne Michel Debré. » Voilà. Il va être donc ministre des armées pendant la période la plus difficile, la plus grande épreuve, celle de la fin de la guerre d'Algérie. Et puis, il sera surtout le second Premier ministre de Georges Pompidou. Et c'est un homme scrupuleux, extrêmement réservé, qui est cordial, mais qui n'est pas chaleureux au sens où le sont aujourd'hui tous ces hommes politiques qui passent leur temps à s'embrasser. C'est pas du tout son genre, on ne voit pas du tout aller chez Michel Drucker. C'est à la fois une figure de l'autorité et en même temps, c'est un humaniste, c'est un homme extrêmement sensible aux problèmes humains. La reconnaissance du droit de certains objecteurs de conscience, c'est lui. Dans l'affaire de la torture des tortures en Algérie, il avait nommé des magistrats chargés d'aller contrôler sur place les abus qui étaient commis. Et puis, il s'affirme toujours comme chrétien. Hein, il s'affirme toujours comme chrétien, ce que peu de gens osent faire aujourd'hui, même quand ils le sont. Et lui n'a jamais gêné pour dire que ça fait partie de ses références personnelles. Il va continuer sa carrière politique jusqu'en 1988 et quand il sera battu aux élections législatives, il va se défaire de tous ses mandats, car c'est un homme qui sait tourner la page.
Un homme qui sait tourner la page et un chrétien. Hein, c'est quelque chose sur lequel Philippe de Saint-Robert insiste. Alors j'ai toujours été un peu surpris, moi qui ai constamment vécu dans un monde en paix, en quelque sorte. C'est une différence de génération, je n'ai jamais connu que la paix. Comment est-ce qu'on peut à la fois allier la foi chrétienne et la nécessité de la guerre, où on tue quand même ?
Je vous répondrai
une question idiote peut-être, mais
que ça s'est produit assez souvent dans l'histoire de l'Europe, et en particulier dans l'histoire de la France. Je ne veux même pas parler des croisades, mais dans la France libre, par exemple, quand nous nous battions contre les Allemands pour la libération de la France, nous avions un peu ce sentiment de mener une croisade. Si vous voulez, nous avions le sentiment que la guerre que nous faisions était une guerre juste.
Pour des valeurs.
Oui, voilà. Pour des valeurs et pour la libération de notre pays. Nous avions un pays qui était occupé par l'ennemi. À nos yeux, c'était inacceptable. Et en plus, un ennemi qui piétinait absolument toutes les valeurs dans lesquelles nous avions été élevés. Alors, notre sentiment était vraiment que nous faisions une guerre juste.
Lorsqu'on lit vos mémoires, qui sont un livre, je vous le dis sans flatterie, qui sont un livre absolument remarquable et passionnant à lire, on est frappé par plusieurs choses. D'abord parce qu'il y a une sorte d'allégresse. Il y a une gaieté. Vous êtes un homme gai.
Oui,
c'est une chose incroyable,
ça. Je ne suis pas triste.
Oui.
Je ne suis pas triste. Et puis, dans ces, la France libre, il y avait en effet une sorte de gaieté.
C'est ça.
Générale. Alors, je ne dis pas que nous étions toujours gais.
Alors.
Quand il y avait.
Alors, j'y viens aussi.
Quand il y avait des pertes en vie humaine, que nous avions des camarades qui mouraient, nous ne pouvions pas être gais. Mais, après tout, nous surmontions cela.
Ça, c'était l'aventure aussi.
Ah oui, alors là, pour l'aventure, nous avons été payés.
Vous avez été servis, oui. Alors, il y a quand même un autre aspect. Est-ce qu'il y a de la violence en vous? Parce que vous avez été un soldat d'une pugnacité. Quand on lit les mémoires, on est... J'en lirai d'ailleurs un petit extrait tout à l'heure. Vous avez été dans des combats d'une férocité incroyable.
Je dirais que ma violence est quand même une violence maîtrisée. Pour répondre directement à votre question, je ne crois pas avoir tué moi-même beaucoup d'ennemis. Je suis sûr d'en avoir tué quelques-uns. Mais j'en ai épargné. J'en ai épargné que j'aurais pu tuer, que j'avais le droit de tuer. Et je les ai épargnés parce que s'il m'est arrivé d'être violent, je n'étais pas sanguinaire. C'est peut-être la nuance. Je dirais que ma violence, c'était une violence contrôlée. Contrôlée dans un système très hiérarchisé, car la Légion étrangère est fortement hiérarchisée, mais en même temps, et à cause de cette hiérarchie, ce contrôle fait qu'il n'y avait pas de débordement.
À 24 ans, au moment de l'écroulement de la France et au moment où le maréchal Pétain appelle à déposer les armes, vous n'hésitez pas une seconde. Vous voulez continuer.
Oui. Ah là, j'ai pas hésité une seconde. D'abord, il faut vous dire que j'ai été à la fois blessé, une blessure qui ne s'est jamais refermée, par la débâcle de 1940. Ceux qui ont vu cette débâcle militaire et civile d'un peuple entier sur les routes qui allait n'importe où, ne savaient pas où ils allaient, d'une armée qui, après un choc très brutal, s'était elle aussi brisée. Ceux qui ont vu cela ne peuvent pas l'oublier. Et je vous répète, c'est resté pour moi une blessure qui n'est pas refermée.
Indélébile.
Oui. Hein. Ça a marqué toute ma vie.
Et tous les hommes de votre génération, ceux qui ont réagi.
Oui, tout le monde n'a pas réagi de la même façon, mais je dois dire que le discours du maréchal Pétain m'a absolument décidé, parce que j'ai jamais entendu l'appel du général de Gaulle, mais j'ai entendu le discours du maréchal Pétain.
Mais pourtant, Pierre...
J'ai entendu ce vieillard, avec une voix chevrotante, qui expliquait qu'il fallait cesser le combat. Je me suis dit, bien ça, je peux pas accepter.
Et pourtant, Pierre Messmer...
Et je suis parti.
C'était un maréchal de France.
Moi,
c'était...
je m'en fichais du maréchal de France à partir du moment, à partir du moment où il me disait qu'il fallait déposer les armes. Et je suis parti avec mon ami le lieutenant Simon dans l'heure qui a suivi.
Alors, les mémoires racontent les circonstances absolument rocambolesques qui font que, en quelque sorte, vous arraisonnez un bateau qui avait été saisi parce qu'il était italien. Et finalement, c'est une odyssée incroyable. Et je ne veux pas en parler parce que je veux plutôt, au cours de cet entretien, essayer de vous suivre dans vos valeurs plutôt que dans la biographie proprement dite. Je renvoie nos téléspectateurs à vos mémoires et au livre d'entretien de Philippe de Saint-Robert. Vous arraisonnez ce bateau, finalement vous arrivez à Liverpool et vous vous retrouvez en face du général de Gaulle. Est-ce que vous saviez où vous alliez ?
Nous avons été reçus, lieutenant Simon et moi, nous avons été reçus par le général de Gaulle 3 ou 4 jours après notre arrivée
Odyssée,
à Londres.
Oui.
Je dois dire que le général de Gaulle recevait souvent les officiers qui se ralliaient à lui, puis il avait dû entendre parler de cette aventure du Capo Olmo. Vous savez, il n'y avait pas tellement de gens qui se ralliaient au général de Gaulle à l'époque. Et alors il nous a reçus, en effet, et j'ai eu, au cours de cette brève audience, qui a dû durer entre 5 et 10 minutes au maximum. Nous étions tous les deux, là. J'ai eu une idée fausse du général de Gaulle. Il était n'était pas encore à Carlton Garden, mais dans cette espèce d'appartement était sur les quais de la Tamise, derrière une table de bois blanc. Je le voyais à contre-jour parce que il tournait le dos aux fenêtres. J'ai eu l'impression de me présenter au colonel d'un régiment dans lequel j'aurais été affecté. C'était le style. Et puis, ça a été la seule fois dans mon existence, il a demandé à Simon si nous avions des préférences en ce qui concernait notre affectation. Jamais il me l'a redemandé par la suite. Mais il m'a donné là une impression fausse, vous comprenez, de vouloir faire quelque chose d'aimable à notre égard, sans doute à cause de l'affaire du Capo Olmo.
Le Capo Olmo, c'était le cargo arraisonné.
Le cargo que nous avions détourné.
Flibusté.
Vous savez, les jeunes sont très malins. En 3 jours, nous avions fait le tour. Et moi, j'avais décidé de continuer la guerre et je voulais la faire avec des professionnels. Alors, sans aucune hésitation, je lui ai dit, je souhaite être affecté à la Légion étrangère. Il m'a dit, c'est fait.
Est-ce à dire, Pierre Messmer, qu'au fond, le général de Gaulle, pour votre première rencontre, ne vous a pas fait une extraordinaire impression ?
Non, c'est ça. Non, pas extraordinaire. Ça a changé par la suite.
Alors, à quel moment ça a changé ?
Ah, progressivement. Je dois dire que, déjà, très peu de temps après, à Dakar.
À Dakar,
après
c'est un échec.
Après Dakar, ce qui a été un échec.
Tentative pour prendre Dakar et on repart.
Simon et moi, nous demandons au général de Gaulle une audience qui nous accorde d'abord du bateau sur lequel il était, le Western Land, en rade de Freetown. Et nous voulions lui parler d'un de nos camarades, que vous connaissez certainement de nom, Scamaroni, qui par la suite sera parachuté et se suicidera en Corse pour échapper à la torture, qui avait été fait prisonnier à Dakar. Je dis au général de Gaulle, mon général, est-ce que on pourrait envisager un échange de prisonniers parce que Scamaroni va certainement être traduit devant un tribunal militaire et il va être inculpé de désertion. Le général me répond, « Comment inculpé de désertion ? Ce sont ces juges qui ont déserté le combat. »
Alors là,
j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un de qui n'était pas
ordinaire.
Tendre.
Oui. Alors on retrouve le général de Gaulle à cette époque où vous commencez à ressentir l'épaisseur du personnage.
C'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Rotonde, continue à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Oui, c'est le cas sacrifice total de certains pour le salut de tous qui rassemble toute la patrie. Soldats morts de Keren, Koufra, Mourzouk, Damas, Bir Hakeim, Hameimat, marins de nos navires coulés, Narval, Surcouf, Alice, Mimosa, Poulmic, Viking, chasseurs 8, aviateurs tués dans les ciels des batailles d'Angleterre, d'Orient, d'Afrique.
Ah, la langue, hein ?
Oui.
Hein ? C'est impressionnant quand même. Rien que dans cette énumération, il y a le timbre, enfin la manière de dire les choses comme ça.
Oui.
Mais d'ailleurs,
je vous trouve
assez gaullien, Pierre Messmer, dans votre manière de parler.
Nous voyons à ce moment-là le général de Gaulle assez souvent, parce qu'il vient inspecter les unités. Par exemple, je viens de parler de Dakar, mais nous allons le voir quelques mois plus tard en Érythrée. Où il viendra après Keren, après la bataille de Keren, et avant celle de Massawa. Nous allons le revoir encore quelques semaines plus tard en Palestine, puisque c'était à l'époque comme cela que s'appelait le territoire qui est aujourd'hui Israël et la Palestine, où nous étions réunis au camp de Cassina, en vue de la campagne de Syrie. Et il vient demander aux officiers quels sont ceux qui sont volontaires pour cette campagne. Car, très curieusement, il acceptait l'objection de conscience. C'est d'ailleurs un problème très très intéressant, le problème de De Gaulle et de l'objection de conscience.
Oui, on va y revenir tout à l'heure, parce que parmi vos actions en tant que ministre des Armées, vous avez revu tout le code militaire, et Philippe de Saint-Robert en parlait tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on continue sur cette période de la guerre. Là, ce sont des combats, je disais tout à l'heure, terribles. C'est Bir Hakeim, c'est El Alamein. Vos camarades qui meurent autour de vous. C'est aussi la fraternité. C'est une chose sur laquelle vous insistez beaucoup.
Oui.
À la Légion, il y a tout le monde. Il y a de tout.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui vous a marqué profondément.
Ah oui, il y a un sentiment de fraternité d'armes.
Il y a des anciens officiers tsaristes et des anarchistes espagnols, enfin.
Oui. Mais ça ne change rien. Il y a même quelques Allemands.
C'est ça.
Il y a même quelques Allemands. Alors on voit très bien leur itinéraire. D'où viennent-ils, ces Allemands ? Ce sont les spartakistes.
C'est ça.
C'est-à-dire des hommes qui s'étaient battus parce qu'ils n'avaient pas accepté la défaite en 1919.
Et oui, et qui voulait faire la révolution.
Il y a des Espagnols, il y a beaucoup d'Espagnols à ce moment-là. D'où viennent ces Espagnols ? De l'armée républicaine. Dans ma compagnie, j'avais une douzaine d'Espagnols qui étaient des anciens de la Fédération anarchiste ibérique. J'ai pas besoin de vous dire qu'il y a entre eux une solidarité parfaite. mais entre nous aussi, parce que, après tout, moi, je n'étais pas du tout gêné d'avoir des gens de la FAI, de la Fédération anarchiste ibérique, dans ma compagnie.
Alors, je voulais lire un texte que vous avez consacré à cette impression que vous alliez mourir, notamment en Érythrée, à votre relation avec la mort. Mais au fond, je préfère encore vous parler et renvoyer nos téléspectateurs à vos mémoires. En Érythrée, après avoir traversé Birakem et El Alamein dans des conditions insensées, quand on lit ça, surtout pour moi, je vous dis, qui ai toujours vécu dans la paix, quand on voit ce qu'est la guerre, vraiment, en Érythrée, là, vous sentez que vous allez mourir.
Oui.
Et comment est-ce qu'on... Qu'est-ce que c'est le courage? On peut avoir peur et avoir du courage, non?
Je vais vous dire, on m'a rattrapé dans le coma, en effet.
Oui.
J'allais mourir une heure après, de soif. Je dirais que le courage, ma dernière pensée, ça a été de me dire, si c'était à refaire, je recommencerais.
Et la peur, vous avez déjà éprouvé la peur?
Ah, ça m'est arrivé, oui. Vous savez...
Vous n'avez pas sauté en parachute, par exemple, vous le dites.
Par exemple, je suis parachutiste, j'ai sauté en parachute. Jamais j'ai sauté sans ressentir la peur du vide.
C'est ça.
Vraiment, pour moi, c'était un effort, parce que j'avais peur. Non pas peur de ce qui allait m'arriver quand j'arriverais au sol, encore que la dernière fois, ça s'est très mal passé.
Oui.
Mais j'avais une sorte d'angoisse devant le vide, et chaque fois, c'était la même chose.
Et puis alors, il y a des tourments... j'allais dire plus complexes, mais qui sont très, 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 très forts, comme par exemple quand il y a la guerre en Syrie,
oui,
qui est en fait une guerre contre les, oui, contre les vichistes, c'est-à-dire une guerre civile Français. Vous dites que la guerre étrangère apporte souvent,
oui,
la guerre civile.
Oui, c'est classique.
Et une vraie guerre, là, où on s'est tué.
Ah, c'est une vraie guerre. Et... alors là, j'en ai beaucoup souffert. Et au point que, à l'entrée dans Damas, parce que c'est ma compagnie qui est entrée la première dans Damas, en force, je suis entré dans Damas.
Vous dites ça gaiement, hein.
Il y avait quand même pas mal de pertes, pas tellement dans ma compagnie, mais autour. Mon camarade Simon venait de recevoir une balle dans la tête. Un petit Américain, un petit lieutenant américain, Heze, avait une balle en pleine figure, était en train de mourir. Quand je suis arrivé, justement, quand j'ai pénétré dans Damas, où vraiment j'ai pénétré... J'avais plus personne devant moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans la guerre d'avoir le sentiment de la victoire quand j'avais plus personne devant moi. À El Alamein, c'était la même chose. J'avais plus personne devant moi. J'étais passé. À Damas, dans la pièce où j'étais installé, parce que les chars vichistes continuaient à circuler dans la rue, j'ai pleuré.
Et alors, cette guerre de Syrie, c'est aussi votre premier vrai contact avec ce que j'appellerais, peut-être un peu outrancièrement, les soldats perdus.
Oui.
Vous allez les retrouver en Algérie, vous allez les retrouver,
oui,
plus tard.
Ah,
ceux,
oui,
qui se sont trompés.
Oui, ils se sont trompés. Pourquoi je veux pas faire cette analyse, elle est très compliquée. Mais ce qui est frappant en Syrie, c'est que ce sont les cadres qui se trompent.
Ce sont
les officiers. C'est pas la troupe.
C'est comme en Algérie au moment du putsch.
Il y a un régiment de légions étrangères en Syrie. Un régiment qui comptait à peu près 3 bataillons. Eh bien, il y a plus que 2 bataillons de légionnaires qui se rallient. Mais dans tout le régiment, il y a 2 officiers. Pas plus. C'est-à-dire que les officiers s'en vont et c'est la troupe qui reste pour continuer le combat. J'ai l'impression que en France, dans la résistance intérieure, c'était un peu la même chose. Les élites ne donnaient pas l'exemple.
En 1945, après toutes sortes de tribulations, où votre liberté de parole vous vaut une réputation assez contrastée, des difficultés avec Koenig, par exemple, qui a essayé de vous exiler jusqu'aux États-Unis, vous vous retrouvez en 1945 parachuté en Indochine comme commissaire de la République
par intérim.
Par intérim, oui. Vous n'êtes toujours que capitaine. Là, on vous a bombardé commandant à titre provisoire.
Oui.
Bon. Donc, ça, votre carrière avance pas très vite sur le plan des...
Non. Hein? J'avais peut-être une liberté de parole un peu trop... J'étais un peu trop libre. Alors, mes camarades officiers, qui étaient des officiers d'active à la Légion étrangère, trouvaient ça très bien. Je crois qu'ils m'aimaient beaucoup et même ils me respectaient un peu. Mais avec leur formation d'officier de carrière, étaient beaucoup plus réservés.
Bien sûr.
Alors, ils m'écoutaient. quelquefois, ils m'approuvaient. Mais je me trouvais un petit peu, si je peux dire, isolé. Dans ces manifestations, ce qui fait que j'avais pas un avancement extraordinaire. Quand on commence la guerre comme lieutenant et que 6 ans après, on a fini comme capitaine.
Alors cependant, on vous envoie en 45 dans un guépier infernal qui est l'Indochine.
Oui.
Et on vous parachute, pas très loin de Hanoï, dans un endroit perdu.
Oui.
Et vous vous retrouvez prisonnier du Viet Minh avec 2 camarades. Ça, ce sont des pages extraordinaires dans les mémoires. Et vous êtes donc leur prisonnier et vous vous évadez.
Je m'évade après que mon adjoint a été assassiné.
C'est ça, meurt, oui.
Parce que je comprends à ce moment-là que les choses risquent de tourner très mal pour mon radio et pour moi.
Alors, vous arrivez à vous échapper, et puis ensuite, vous allez continuer à avoir des relations très fortes avec l'Indochine, mais on va y venir dans un instant. Et à ce moment-là, c'est encore l'option d'Argentlieu qui l'emporte.
Oui.
Et alors, on a beaucoup reproché au général de Gaulle d'avoir mis d'Argentlieu en orbite et au fond de s'être trompé sur l'évolution que devait connaître l'Indochine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
À mon avis, le choix d'Argentlieu n'était pas un bon choix. Mais il correspondait, il faut bien le dire, à la politique que le gouvernement avait décidé de faire à l'époque. Et par conséquent, la principale responsabilité, c'est celle du gouvernement. Alors, il y a une vue de la part du général de Gaulle qui est juste et une qui est fausse. L'idée du général de Gaulle, c'est qu'il faut rétablir le statu quo antebellum. C'est-à-dire qu'il faut que la France revienne partout en Indochine, y compris à Hanoï, occupée par le Viet Minh.
Occupée par le Viet Minh, avec encore les Japonais, les Chinois qui sont Chiang Kai-shek, pour parler vulgairement, un merdier incroyable.
Incroyable, oui. Absolument incroyable.
Vous êtes là, vous?
Oui, moi je suis là-dedans. Alors, il y a cette idée-là, qui est à mon avis une idée juste, mais il y a une idée fausse, qui est de croire qu'on va pouvoir se réinstaller dans un système un peu coloniale en Indochine. Alors, moi, qui ai vécu pendant 2 mois au milieu des Vietnamiens, et circulé, j'ai fait à pied tout le détroit du Tonkin, depuis le Tam Dao, à pied, jusqu'à Haïphong, et qui les ai vus, j'ai compris que c'était pas possible, qu'ils se considéraient déjà comme indépendants, et que par conséquent, si nous voulions rétablir une formule paracoloniale, il allait falloir faire la guerre. Et sur ce point-là, alors je suis en désaccord complet avec la politique du gouvernement. Quelle a été vraiment l'idée du général de Gaulle? C'est très compliqué.
Il quitte
parce
les
que,
affaires à ce moment-là, en plus.
Oui, et puis alors, il a eu une manœuvre qui a raté. C'est celle de la restauration de l'ancien empereur.
Qui meurt dans un accident d'avion, oui.
Oui.
Alors donc ça ne marche pas.
Or, cette restauration n'aurait été possible que par la reconnaissance de l'indépendance et de la réunification. Alors, et puis le général de Gaulle s'en va. Et le résultat, c'est que, à partir de ce moment-là, aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, n'a le courage de dire, bien oui, nous allons à l'indépendance. Jusqu'à Mendès France,
oui,
je
oui.
dois dire.
On va y revenir. Pierre Messmer, nous sommes aussi allés voir un de vos compagnons, qui est actuellement le président de l'Institut du monde arabe, Yves Guéna, qui nous a confié quelques souvenirs.
Alors, si vous voulez, la première rencontre, c'est lorsque j'ai été nommé haut-commissaire en Côte d'Ivoire en 1959 et qu'il était lui-même haut-commissaire général à Dakar. Mais c'était en quelque sorte des retrouvailles parce que Pierre Messmer était un combattant de la France libre, je dirais même un héros de la France libre, et moi-même j'ai fait toute la guerre dans les forces françaises libres, donc Messmer n'avait pas entendu parler de moi. Mais moi, j'avais entendu parler de Messmer, qui s'était déjà beaucoup illustré. Parce que se saisir d'un cargo avec un autre officier, qui était le général Simon, et l'amener à Gibraltar, puis à Londres, ça classe un homme. Ça classe un homme. Messmer, comme Premier ministre, a été un homme de décision et d'exécution. On était en réalité dans la crise du pétrole. J'ai donc été en première ligne pour la grande opération entreprise par Messmer, c'est-à-dire le développement des centrales nucléaires. Ce n'était pas le meilleur moment pour vendre le Concorde. Enfin, on a essayé. On a essayé aussi le train sur coussin d'air, vous savez, dont on voit encore les vestiges, si je puis dire, dans la Beauce. Ce qui me paraît significatif aussi de l'homme et de son désintéressement, c'est ceci. Vers la fin de l'année 1959, ou juste avant, le Haut Commissariat Général à Dakar, n'étant plus adapté aux structures de la communauté, a été supprimé. Alors on pourrait imaginer que Messmer ait demandé tel ou tel poste, puisqu'il était Haut Commissaire Général, qu'il avait une quarantaine d'années, qu'il était connu comme très brillant. Non, il n'a rien demandé. Et lorsqu'il y a eu un remaniement ministériel, en février 1960, après le temps des barricades, et que le général a remplacé le ministre qui était en poste alors, et s'est dit « je vais y mettre Messmer », ben il a fallu chercher Messmer partout, car on ne savait pas où il était, et en réalité, comme il était colonel de réserve, comme il était sans emploi, eh bien il s'est fait rappeler en Algérie, sous l'uniforme, pour y servir la France, les armes à la main, une fois de plus. Je crois que ça dépeint un homme.
Nous reviendrons sur l'entretien que nous a accordé Yves Guéna dans un instant, mais je voudrais reprendre le fil et le moment où vous quittez l'armée en 1946 et où vous rentrez dans un certain nombre de cabinets ministériels qui, au fond, d'ailleurs,
oui,
vous mettent
alors, en... Il faut rappeler qu'en 1946... je reviens d'Indochine, on me rapatrie après mon évasion en décembre 1945. Et je suis démobilisé le 1er janvier 1946. Il faut dire que physiquement, j'étais quand même un peu fatigué.
J'imagine.
Et j'ai passé presque toute l'année 1946 en France. Alors j'ai été en particulier au cabinet d'un homme pour lequel j'avais un grand respect.
De l'affection même.
Et de l'affection. C'est lui qui avait de l'affection pour moi, Marius Moutet.
Oui, alors on l'a oublié, Marius Moutet.
Marius Moutet, c'était un vieux socialiste à l'ancienne manière. Songez qu'il avait été élu député de Lyon en 1913, et c'était Jaurès qui était venu faire sa campagne.
C'est ça. Vous voyez de près, à ce moment-là, le personnel politique de la 4e République.
Alors, oui.
Ils n'étaient pas tous...
Je suis plusieurs fois, d'ailleurs, j'étais chef de cabinet. Alors, plusieurs fois, d'ailleurs, j'ai été, comme chef de cabinet, commissaire du gouvernement, et j'allais à l'Assemblée nationale pour servir au ministre de conseiller, vous savez, le commissaire du gouvernement est derrière le ministre, il lui passe des papiers ou il répond à ses questions.
C'était pas un peu fade comme vie après tout ce que vous aviez vécu ?
Si, hein ? Si, je dois dire que je m'ennuyais un peu. Pour être tout à fait franc, je dirais aussi que c'est le moment où j'ai été personnellement heureux à Paris parce que je retrouvais des camarades, parce que je rencontrais de jolies femmes, jolies filles. Je peux dire que cette année 1946 était une année heureuse.
Vous avez soufflé, en quelque sorte. Vous pouviez souffler un petit peu.
Et je suis reparti en Indochine en 1947.
Voilà. Vous êtes reparti en Indochine, vous assistez au marasme, en fait. Hein.
Oui, et je suis reparti en Indochine comme directeur de cabinet d'Émile Bollaert, qui était haut commissaire. Et j'ai quitté l'Indochine en même temps que lui, parce que j'ai compris que, vraiment, les gouvernements successifs s'étaient engagés dans la guerre. Et c'était une guerre dont je savais avec certitude qu'elle ne pouvait pas arriver à quelques résultats satisfaisants que ce soit. Ça ne pouvait pas être une victoire et ça ne pouvait pas non plus être une solution.
Ce fut tout de même la maladie permanente de la 4e République que de ne pas pouvoir résoudre ce genre de problème. Cependant, toute cette 4e République, elle n'a pas été tout le temps mauvaise. Il y avait des hommes qui étaient très bien.
En réalité, la 4e République est morte de son incapacité à décoloniser.
C'est ça.
J'ai dit quelquefois que la 4e République est morte à Dien Bien Phu. Ce qui est vrai. Car ce qui s'est passé ensuite, en 1958 à Alger, c'est une des conséquences de Dien Bien Phu. Il y a d'ailleurs à Alger, parmi les officiers qui vont amener l'effondrement de la 4e République, beaucoup d'officiers qui viennent d'Indochine.
Pierre Messmer, durant les années de la fin de la 4e République, vous faites enfin le métier pour lequel vous étiez préparé.
Pendant 10 ans.
Vous faites d'ailleurs une brillante carrière. Vous terminez comme gouverneur de l'AEF.
Ah ben, j'ai des gouverneurs de la Mauritanie.
Gouverneur de la Mauritanie.
De la Côte d'Ivoire.
Du Cameroun.
Oui. Et puis au commissaire, finalement.
Dakar. Vous en parlez dans vos mémoires. C'est ça aussi, c'est tout à fait intéressant. Et ce qui est le plus frappant, c'est qu'enfin, au fond, vous, le colonisateur, vous êtes un décolonisateur.
Oui.
Et sans trouble de conscience, au contraire, vous y allez.
Non, j'ai aucun problème de conscience. sur la décolonisation. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, en 1960, le général de Gaulle me nomme ministre des Armées. Parce qu'il sait, il me connaît, et il sait que je n'ai pas de problème de conscience sur l'indépendance de l'Algérie.
Alors, vous participez à cela parce que vous participez à la rédaction, par exemple, de la loi cadre de Defferre.
Oui, Gaston Defferre.
Qui est l'antichambre.
J'ai été pendant 3 mois seulement directeur de cabinet de Gaston Defferre. Gaston Defferre m'avait fait venir à Paris précisément pour préparer la loi cadre d'autonomie interne qu'il voulait faire passer. Alors, il connaissait mes opinions et il s'est dit, ben voilà, au moins lui, il me posera pas de problème et il fera ce que je lui demanderai parce que ça correspond tout à fait à ses idées. Et j'ai été pendant 3 mois avec Gaston Defferre à son cabinet. Nous entendions très bien. Nous étions mis d'accord sur un point très important pour lui et pour moi, c'est que jamais je ne m'occuperai des affaires de Marseille.
Jamais vous... Ah oui, alors donc ça, il était tranquille, là. Il y a plusieurs enseignements que je tire de cette période africaine. D'abord, il y a le lecteur de Laurence d'Arabie, quand même. Ça, on n'en a pas parlé. Oui. C'est un de vos livres de chevet, oui. Les 7 piliers de la sagesse.
Oui. Oui, c'est un grand livre, les 7 piliers de la sagesse. C'est un grand livre. Il y a quand même deux aspects dans le personnage de Laurence d'Arabie. Il y a l'homme de la révolte arabe, et qui, de ce point de vue-là, a conduit la révolte arabe jusqu'à Damas, depuis Jeddah jusqu'à Damas. Et c'est un succès. Mais il y a aussi l'homme qui rêvait d'un royaume arabe. Et ça, c'est un échec. Et Laurence d'Arabie ne s'est jamais pardonné cet échec-là.
Alors Pierre Messmer accompagne la décolonisation, entretient par exemple des relations profondes avec un homme comme Oufouette Boigny, sent que ça ne va pas marcher avec ses Couturiers, et d'ailleurs essaye d'éviter que le général de Gaulle n'aille en Guinée, contribue à l'organisation de l'Afrique dans les années 60. Aujourd'hui, 45 ans plus tard, Pierre Messmer, cette organisation de l'Afrique, elle vole en éclats.
Oui, vous disiez que j'étais gay. Et je crois qu'en effet, je suis assez gay. Mais une de mes tristesses en ce moment, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique au sud du Sahara. Parce que elle se défait. Elle se défait.
Est-ce que c'est de notre faute ?
Bien sûr, nous avons sûrement une part de responsabilité. Mais il ne faut pas oublier que les Africains sont indépendants depuis 1960. Il y a quand même 45 ans. Et en 45 ans, ils ont eu le temps de prendre des responsabilités. Et ce qu'on voit dans un certain nombre de cas, en particulier les guerres civiles qui existent en Afrique, c'est vraiment la responsabilité des Africains. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la colonisation, qui a eu ses qualités, ses défauts, c'est certain, la colonisation a apporté quand même un demi-siècle de paix à l'Afrique. Disons grosso modo, entre le début du XXe siècle et l'indépendance en 1960, l'Afrique est en paix. Et elle retourne dans ses guerres civiles après l'indépendance. Et ce n'est pas ici ou là. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais hier au Rwanda, au Burundi, au Libéria, au Sierra Leone, et demain où ? Alors, on ne peut quand même pas dire que, et je ne parle pas du Congo ex-belge, dont on ne sait plus exactement où il se trouve. La responsabilité, c'est quand même pas toujours celle des colonisateurs. Celle des décolonisés existe aussi.
Lorsque vous quittez Dakar en 1960 avec les honneurs, quels sont vos sentiments ?
Ah, mon départ de Dakar a quelque chose d'assez étonnant. J'avais décidé de partir de Dakar 4 jours avant l'indépendance, parce que je ne voulais pas amener le drapeau. Et j'avais décidé de prendre le bateau. Il y avait encore des bateaux pour aller de Dakar à Marseille. Alors, ce qui fait que...
Vous aimez les bateaux, de toute façon.
Oui, et puis ça faisait que j'étais en mer, je n'étais plus à Dakar. Alors, j'ai décidé d'aller depuis le palais du gouverneur jusqu'au port, à pied, et toute la garnison de Dakar était là pour rendre les honneurs. Et c'était à 6 heures du soir, c'est-à-dire l'heure de la fermeture des bureaux. Il y avait dans les rues, et en particulier ce qu'on appelait à l'époque la place Protect, qui est la grande place de Dakar, il y avait une foule considérable. Il y avait peut-être 20 000, 30 000 personnes. Et ce qui était le plus extraordinaire, c'est que tout s'est passé dans un silence incroyable. Il n'y a pas eu un applaudissement, il n'y a pas eu un seul cri. Au fond, tous ces hommes et ces femmes qui étaient là, blancs et noirs, sentaient que mon départ, c'était pour Dakar un changement de destin. Et je l'ai raconté, cette histoire à Malraux, et Malraux a repris cette idée du changement de destin dans plusieurs de ses discours qu'il a prononcés à l'occasion de voyages en Afrique.
Vous devenez à votre retour, enfin peu après, ministre des armées, et nous avons un document qui le rappelle.
Une explosion nucléaire expérimentale a eu lieu ce matin, avec succès, sur le polygone de Reagan. Comme pour les explosions précédentes, l'opération a été réalisée en étroite collaboration par le ministère des Armées et le commissariat à l'énergie atomique. L'explosion a été délibérément de très faible puissance. Nous avons voulu non pas essayer une arme, mais procéder à une expérience de laboratoire à grande échelle, mettant en œuvre une réaction nucléaire en chaîne.
La bombe atomique, nous allons y revenir.
Oui.
La force de frappe, nous allons y revenir dans un instant. Ce qui me frappe, c'est lorsque vous devenez ministre des armées, sur la demande du général de Gaulle, c'est juste après les barricades et juste avant le putsch d'Alger. En quelque sorte, vous avez l'Algérie à bras-le-corps.
Oui. Sur la bombe atomique d'abord, puisque...
Alors parlons de la bombe atomique, si vous
voulez. On vient d'en parler. Je me suis toujours trouvé dans une situation très particulière. Tout à l'heure, vous avez rappelé que j'étais en Extrême-Orient au moment de la fin de la guerre du Japon, contre le Japon, et cette guerre a été terminée par Hiroshima et Nagasaki. La réaction du monde entier, et même du général de Gaulle dans ses mémoires de guerre, c'est de dire « c'est horrible ». Ma réaction, comme celle d'ailleurs, je crois, de milliers et de milliers de militaires américains, anglais et australiens, ça a été de dire « ah, quel bonheur, la guerre est finie ». Parce que la perspective, vous parliez de, j'étais parachutiste à l'époque, la perspective d'aller faire un débarquement sur une plage japonaise par un petit matin blême, c'était pas très encourageant. Et au fond de moi-même, je pensais que ça allait être pour moi, au bout de 6 ans de guerre, la bataille de trop. Alors, j'ai eu l'impression que la bombe atomique d'Hiroshima m'a sauvé la vie. C'est pourquoi j'ai toujours été partisan de la bombe atomique.
Vous vous rendez compte que vous dites quelque chose comme ça qui peut choquer?
Mais oui, parce que je pense que la bombe atomique m'a sauvé la vie. Alors, elle a fait perdre la vie à des dizaines de milliers de Japonais. Mais après tout, s'ils avaient décidé de faire la guerre, c'était leur affaire. Mais elle a sauvé la vie de dizaines de milliers de militaires américains, anglais, australiens, et quelques Français dont j'étais.
Revenons à la guerre d'Algérie. On reparlera de la bombe dans un instant. Revenons à la guerre d'Algérie, après les barricades et avant le putsch. Est-ce que vous l'avez vu arriver, le putsch, le pronunciamiento, disait le général?
Je dirais oui, mais sans savoir exactement quand il se produirait, parce que comme toujours, les services de renseignement, et en particulier la sécurité militaire, puisque on l'appelait ainsi à l'époque, qui suivaient ces affaires-là d'assez près, annonçaient périodiquement la préparation d'un putsch. Alors, on finissait par ne plus savoir très bien si c'était sérieux ou si c'était simplement une sorte d'intoxication. Alors, je réponds que je sentais le putsch arriver, mais j'étais incapable de dire quand il arriverait.
Lorsqu'il survient, vous présentez votre démission au général de Gaulle.
Ah oui, oui, deux ou trois jours après,
oui.
Parce que j'ai voulu quand même traiter les affaires pendant la durée du putsch, et en particulier pour être sûr que ça ne pouvait pas se développer en direction du territoire national de la métropole, j'ai fait rentrer toute l'aviation de transport.
Oui, c'est ça, parce qu'on avait peur que les parachutistes arrivent à Paris.
Mais ils risquaient pas de venir, puisque j'ai fait rentrer toute l'aviation de transport. Les aviateurs n'ont pas participé au putsch. Bien que l'un d'entre eux, le général Jouot, y ait été, la masse de l'aviation n'a pas participé au putsch. Enfin, peu importe, je vais répondre à votre question. Le fait est que le putsch a été fait par des militaires. Des militaires qui étaient la plupart du temps en retraite, mais il y a eu un certain nombre de régiments, en particulier de régiments de parachutistes, qui leur ont obéi pendant 2 ou 3 jours. Alors, ça veut dire qu'ils m'avaient désobéi à moi.
Oui, car vous étiez ministre des armées.
Dans ces conditions-là, j'étais ministre des armées. Dans ces conditions-là, je pensais que je devais présenter ma démission au général de Gaulle. Ce que j'ai fait et ce qu'il a refusé.
Ministre des armées pendant la guerre d'Algérie, pendant la fin de la guerre d'Algérie, avec cette décolonisation infiniment douloureuse que fut la décolonisation de l'Algérie. Comment se passait le partage des responsabilités? Vous aviez en charge l'armée, mais pas le commandement. Comment ça marchait?
Oui, vous avez raison. Le ministre n'a pas de commandement militaire.
C'est ça.
Il y avait un commandant en chef en Algérie. C'est lui qui décidait de la tactique des opérations. C'est pas le ministre. Mais le ministre est l'homme qui est le patron des militaires. C'est lui qui est, si je peux dire, hiérarchiquement leur chef. C'est lui qui les administre. C'est lui qui décide de l'avancement des officiers. C'est lui qui peut décider des sanctions. Alors, pour ça, j'étais très présent. Je passais une semaine par mois en Algérie. Et pas dans les états-majors. Je l'ai sur le terrain, pour voir les gens qui étaient sur le terrain. Une semaine par mois. Et ça n'était pas, pour moi, une semaine très heureuse, parce que la plupart du temps, je rencontrais des hommes, des officiers qui se posaient des problèmes, qui ne savaient plus très bien où aller. Et on les sentait malheureux.
Il n'y avait pas une feuille de papier entre le général de Gaulle et vous concernant l'Algérie. Vous avez
absolument
toujours été
pas
d'accord avec lui.
Absolument.
Et vous avez toujours pensé qu'il allait faire ce qu'il allait faire.
J'ai toujours pensé que nous irions à l'indépendance de l'Algérie. J'espérais qu'on y aurait été dans des circonstances quand même moins tragiques. Moins tragiques pour l'Algérie, moins tragiques pour les Français d'Algérie en particulier. Je pensais pas. J'espérais que l'indépendance algérienne pourrait se passer sans drame, alors qu'elle a été dramatique.
Alors, il y a beaucoup d'aspects que l'on pourrait aborder. Je voudrais juste en relever trois. D'abord, la torture. Vous avez été très hostile toujours à l'utilisation de la torture. Et lorsque vous êtes arrivé, vous avez installé des procureurs militaires pour y mettre fin.
Ce que
n'avait pas fait la 4e République.
Oui, ça. Et ces procureurs militaires, qui étaient des magistrats venus de France et qui étaient envoyés en Algérie pour un temps déterminé, ont été certainement des éléments qui ont en profondeur transformé toutes ces instructions, non seulement devant les tribunaux militaires, mais surtout devant la police.
Vous pensez toujours qu'on aurait pu faire autrement pour les harkis?
Oui. Mais là où encore, les responsabilités sont partagées. Parce que les harkis posaient un problème, de toute façon, un problème très difficile. Au moment de l'indépendance, qu'est-ce qu'on leur proposons? Officiellement, par décret, nous leur proposons, ou bien, vous restez et nous vous engageons dans l'armée française, si vous pouvez, et si vous ne pouvez pas, on vous engage dans des administrations paramilitaires. Ou bien, vous partez avec une prime. Ou bien, vous ne savez pas, et pendant 6 mois, vous restez avec nous, et au bout de 6 mois, vous choisissez, ou vous restez ou vous partez. Or, ce qui s'est passé, c'est que la plus grande partie des harkis a choisi de partir, parce qu'ils ont été trompés par le FLN.
De partir, de rester en fait en Algérie.
Oui, de rester en Algérie. Alors ça se comprend, la plupart étaient des paysans qui voulaient retrouver leur village, leur famille, qui avaient avec une prime l'espoir d'acheter une maison peut-être ou un champ. Et au départ, le FLN, en application des accords d'Évian, leur a dit, mais on pardonne. Ça n'a pas duré longtemps. Au bout de 15 jours, le FLN, qui n'avait jamais eu l'intention de pardonner, a commencé à massacrer. Et il faut le rappeler, les responsables du massacre des harkis, c'est d'abord le FLN.
Les soldats perdus, des camarades à vous, ceux qui sont passés de l'autre côté, qui se sont rebellés, quel sentiment avez-vous à leur égard aujourd'hui?
Ah, aujourd'hui,
tant de choses sont passées.
Le temps est passé. Non, où j'ai eu un problème, c'est quand j'étais ministre, par rapport à ses camarades qui sont partis vers l'OAS, ou qui sont partis purement et simplement. Vis-à-vis d'eux, j'ai eu des problèmes. Ceux que je connaissais le plus, je me suis efforcé de les voir. Je dois dire que ça n'a pas servi à grand-chose. Parce que ils étaient déjà partis, intellectuellement, ils étaient déjà partis. Ils avaient refusé l'indépendance de l'Algérie. Au fond, ils étaient tous Algérie française. Et ils avaient refusé l'indépendance d'Algérie. Par conséquent, ils ne pouvaient pas accepter ce que je leur disais.
C'est là où l'on revient à la force de frappe, Pierre Messmer. Au fond, sur cette armée traumatisée, et cette France même traumatisée, à cette France traumatisée, à cette armée traumatisée, il fallait offrir un programme.
Oui.
Un programme de modernisation.
Une reconversion.
De modernisation complète, oui. et une affectation à de nouvelles tâches. Oui. Et au fond, la force de frappe s'inscrit aussi dans cette perspective.
Ah oui, certainement. Mais au départ, c'est pas tellement facile. Ça ne passe pas si facilement que cela. Pourquoi ? Parce que quels sont ces militaires, ces officiers ? Je parle surtout des cadres, parce que il faut pas oublier qu'à l'époque, la troupe, c'est une troupe d'appelés. Et les appelés sont très contents que la fin de la guerre d'Algérie se traduise par une réduction du service militaire qui était de 27 mois, 27 jours à l'époque, et que très rapidement, nous allons faire descendre à 16 mois, avant d'autres diminutions par la suite. Mais les officiers, pour l'essentiel, ce sont des hommes qui sont dans l'infanterie, dans les parachutistes, ce que j'appellerais dans les armes de mêlée. Et ils ne sont pas du tout tournés vers la technique, et surtout la technique nucléaire. Par conséquent, ils se sentent dépaysés pour beaucoup d'entre eux. Et ils n'accepteront pas facilement cela. Beaucoup vont partir. Il y a une loi de dégagement des cadres à l'époque. Cette loi de dégagement des cadres va connaître un succès extraordinaire. Parce que la France des années 60 est une France en croissance, et par conséquent, il n'y a aucun problème pour retrouver de l'emploi. Nous aidons d'ailleurs les militaires qui partent à trouver de l'emploi, à des emplois, mais aucun ne sera chômeur. Donc là, cette loi de dégagement des cadres se passe très bien. Mais psychologiquement, ceux qui partent sont pas toujours heureux. Ils font souvent de belles carrières par la suite, dans le secteur privé, ou d'autres dans le secteur public. Mais ils sont pas heureux.
Durant ces 9 années où vous êtes ministre des Armées, vous accomplissez un travail considérable en refaisant le code militaire, en faisant des principes d'organisation qui sont encore valables aujourd'hui. Quelle était la marge de manœuvre? On quittera le ministère des Armées sur cette question. Quelle était la marge de manœuvre qu'un ministre des Armées avait en face du général de Gaulle?
La marge des manœuvres sur ce que je pourrais appeler la stratégie était nulle. Il n'était pas question, par exemple, de mettre en cause la stratégie de dissuasion nucléaire. Mais la marge de manœuvre sur la tactique, sur, d'une part, sur les moyens, sur la répartition des moyens financiers en particulier, la marge de manœuvre existe. Le général de Gaulle l'accepte et accepte que le ministre ait une marge de manœuvre. Mais ça n'est pas facile parce que le budget des armées est un très gros budget. Par conséquent, jamais le ministre des Armées ne se met d'accord avec le ministre des Finances, surtout quand c'est M. Valéry Giscard d'Estaing, et il va toujours à l'arbitrage du Premier ministre. Et moi, je n'étais pas toujours content de l'arbitrage du Premier ministre.
Qui était Georges Pompidou.
Et ce qui était Georges Pompidou. Et deux fois de suite, j'ai refusé l'arbitrage du Premier ministre pour aller à l'arbitrage général de Gaulle. Ce qui fait que Giscard d'Estaing était furieux, Pompidou était furieux, et le général de Gaulle n'était pas content parce qu'il n'aimait pas qu'on aille en arbitrage contre le Premier ministre. Mais chaque fois, j'obtenais quelque chose.
Pierre Messmer, l'homme à la liberté de parole, pouvait-il avoir cette liberté de parole avec le général de Gaulle quand il était seul à seul avec lui ?
Oui, en tête à tête.
En tête à tête ?
Uniquement en tête à tête. Général de Gaulle acceptait très bien qu'en tête à tête, on ne soit pas d'accord avec lui, qu'on lui explique pourquoi. Ce qu'il ne tolérait pas, c'est qu'on manifestât son désaccord en public. Par exemple, en Conseil des ministres.
Alors là, oui. Bon, alors je passe sur les anecdotes extraordinaires avec Bokassa, par exemple, et le général de Gaulle qui sont dans les mémoires, qui donnent aussi encore tout un autre éclairage sur la manière dont les choses se passaient. Parce que vous racontez toujours avec un certain humour et avec une certaine distance la manière quel était le climat général. Et j'en arrive au moment où vous allez devenir précisément Premier ministre. À cette époque-là, avec Georges Pompidou comme président de la République, vous rencontrez aussi assez fréquemment Édouard Balladur, qui nous a confié son sentiment.
La personnalité de Pierre Messmer représentait pour les hommes de ma génération, j'allais dire, une référence. Compte tenu de ce qu'avait été son comportement pendant la guerre, son courage pendant la guerre et après la guerre, et également son sens de l'État. On lui doit en bonne part, ainsi qu'au président Pompidou d'ailleurs, le fait que la France soit celui des grands pays au monde où la part de l'énergie nucléaire est la plus forte, la plus importante, ce qui nous met à l'abri de bien des aléas dans nos approvisionnements. Il y a eu, dans les derniers mois de la présidence du président Georges Pompidou, une période également difficile, dans laquelle lui et moi, lui en tant que Premier ministre et moi en tant que secrétaire général de l'Élysée, nous avons eu à coopérer très étroitement et nous l'avons fait dans une atmosphère de grande confiance réciproque, je crois pouvoir le dire, et le président Pompidou nous a fait confiance à lui comme à moi, parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur nous. Et je dois dire que Pierre Messmer a fait preuve de beaucoup de discrétion et de beaucoup de désintéressement, en même temps que de beaucoup d'efficacité.
Vous devenez Premier ministre en 1972, appelé par cet homme avec qui vous aviez eu des différends, qui est Georges Pompidou, et vous vous retrouvez dans une situation qui est très compliquée, puisqu'il faut gérer l'après-68 et le choc pétrolier. Alors, d'abord, l'après-68, la société avait changé quand même.
Oui, puisque vous parlez de 68, je dois dire que pendant toute la crise de 68, j'ai été en plein accord avec Georges Pompidou. Tous les matins, il y avait à Matignon une réunion de maintien de l'ordre avec le ministre de l'Intérieur, naturellement, le préfet de police, le ministre des Armées et, selon les circonstances, le ministre de l'Éducation nationale ou un autre ministre. Et j'étais entièrement d'accord avec l'idée de Georges Pompidou, selon laquelle ce qui était essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de mort. Je dirais qu'il ne peut pas y avoir de révolution lorsqu'il n'y a pas de mort. Et on a vu comment s'est terminée d'ailleurs l'affaire de 1968. Ça a été une révolution dans les mœurs, mais pour une révolution politique. Et Georges Pompidou avait bien compris que dans toute cette période-là, j'étais vraiment à fond d'accord avec lui.
Est-ce que Georges Pompidou, comme vous-même, aviez perçu que c'était, néanmoins, vous dites une révolution dans les mœurs, peut-être que c'est, j'irai un peu plus loin, c'était quand même une modification importante de la société, ou est-ce que vous aviez uniquement une vision répressive
non,
de la chose
Non, pas une vision répressive, parce que l'évolution des mœurs est difficile à réprimer.
La société est toujours en avance sur l'État.
De ce côté-là, on ne pouvait pas faire grand-chose. La répression pouvait porter sur les incendies de voitures, sur des choses comme ça. Sûrement pas l'évolution des mœurs. Mais ce que, peut-être, nous avions sous-estimé, c'était la force de cette évolution des mœurs. J'avais eu l'impression que c'était en quelque sorte une bouffée de chaleur et de liberté, mais que
ça
retomberait. Oh, c'est pas retombé.
C'est pas retombé, oui. Alors, Premier ministre, il faut gérer l'après-68. Il y a quand même Action Directe, il y a des remugles quand même, et des remugles sociaux assez forts qui vont s'aggraver avec le choc pétrolier que vous allez prendre de plein fouet. Wow. C'est la fin des Trente Glorieuses quand
oui.
même. Est-ce que vous en avez conscience sur le moment ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ma réaction sur le choc pétrolier, c'est de dire d'abord, il faut que la France soit moins dépendante qu'elle l'est des importations de pétrole.
D'où le nucléaire.
Alors, c'est une réaction, on peut dire patriotique, nationale, mais elle a une conséquence très importante, cette réaction. C'est l'approbation du programme nucléaire. Le programme nucléaire qui porte mon nom et qui va être lancé à ce moment-là, alors que jusqu'alors, jusqu'au premier choc pétrolier, on discutait, on hésitait, on ne savait pas très bien comment on s'y prendrait. Bien, à ce moment-là, la décision est prise et on se lance.
Pour les pays qui renoncent actuellement au nucléaire et qui adoptent les positions des écologistes, qu'est-ce que vous opposez ?
Je crois qu'ils se trompent. Et en particulier, ils se trompent du point de vue de l'écologie. Parce que le gros avantage des centrales nucléaires, c'est qu'elles ne sont pas polluantes.
Il y a eu Tchernobyl quand même.
Ça, c'est un accident. Et c'est un accident qui, heureusement, ne se procure pas, ne se
reproduit pas.
Est un accident très compliqué,
qui résulte
à la fois de fausses manœuvres, d'une mauvaise conception de la centrale, etc. Et je pense qu'un Tchernobyl n'est pas possible en France. Mais je le répète, chaque jour, les centrales à charbon ou les centrales à pétrole polluent l'atmosphère, alors que les centrales nucléaires ne polluent pas. Et du point de vue de l'environnement, je crois que les écologistes se trompent profondément.
Georges Pompidou avait un projet industriel pour la France. C'est une chose qui est très frappante. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a parmi les gens qui ont les moyens, on a l'impression que ce sont les projets financiers qui l'emportent.
Vous avez raison. Par exemple,
c'est ce que disait Yves Guénard tout à l'heure.
Au moment du choc pétrolier, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est à ce moment-là qu'on décide le premier TGV, Paris-Lyon. Et c'est une décision de Georges Pompidou.
Le Concorde, tout ça marchait. On avait l'impression
Il était très porté tout ça, il avait le sentiment que le développement, la croissance, car il pensait à la croissance, c'était d'abord une croissance économique, et que la croissance économique, à l'époque, c'était d'abord la croissance industrielle, parce que il faut reconnaître qu'à l'époque, les services n'avaient pas la place dans le monde qu'ils ont acquise maintenant.
Est-ce que c'était un gouvernement, il y en a eu plusieurs gouvernements Pierre Messmer, il y en a eu trois au moins, deux ou trois à la suite avec des remaniements ministériels, est-ce que c'était des gouvernements comme le disait, vous allez me dire non ou oui, je ne sais pas, est-ce que c'était des gouvernements comme le disait la gauche très très virulente à votre encontre, est-ce que c'était des gouvernements qu'on qualifierait de très conservateurs?
Oui.
Ça, vous l'avez entendu.
Oui, oh ben, bien sûr. C'est ce qu'on disait. Je dois dire que ça ne m'impressionnait pas énormément. Mais ce qui est vrai, c'est que la fragilité de ces gouvernements tenait au fait que le président de la République était gravement malade et que dans le gouvernement, et à l'extérieur du gouvernement, il y avait un certain nombre d'hommes qui pensaient déjà à la succession de Georges Pompidou.
Et vous, vous étiez une sorte de roc sur lequel il s'amarrait.
Oui, voilà. Hein? Et Georges Pompidou avait confiance en moi. Il savait que je ne cherchais pas à prendre sa place, alors que d'autres y pensaient déjà.
Vous teniez la maison.
Oui.
Qu'est-ce que, s'il y avait un accomplissement dont vous êtes particulièrement content. Je n'allais pas dire fier, parce que la fierté, ce n'est pas vraiment votre caractère, mais
la
content.
La fierté, c'est autre chose.
Quelque chose que vous avez fait pendant ces trois années comme Premier ministre.
Ce dont je suis le plus fier pour la France, c'est le programme électronucléaire.
C'est ça. Est-ce que vous avez...
Et d'ailleurs, mes successeurs... L'ont respecté. Pierre Mauroy a un peu diminué le programme, mais pas tellement. Et pour le reste, le programme a été exécuté. Et on vit encore sur le programme.
Hein. Oui, bien sûr.
On va changer. Maintenant, on s'efforce de prendre la relève des centrales existantes. Mais à l'heure actuelle, nous vivons encore sur le programme nucléaire qui est le mien.
Pierre Messmer, est-ce que vous avez aimé être Premier ministre ?
Non. J'ai aimé être ministre des Armées. Je n'ai pas aimé être Premier ministre.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. J'avais le problème de la santé de Georges Pompidou, qui complique énormément la vie d'un Premier ministre. On le sait. Mais il y avait quelque chose de plus profond en moi. Toujours, dans toutes les fonctions que j'ai eues jusqu'au moment où j'ai été Premier ministre, j'avais l'impression que je dominais la fonction. J'avais des problèmes, mais je les dominais. J'ai eu l'impression, à partir du moment où j'étais Premier ministre, que... j'avais du mal à dominer les problèmes et qu'il y en avait certains que je n'arrivais pas à dominer. Alors, à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas être heureux.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Il n'y a pas un homme politique qui dirait ce que vous êtes en train de dire.
Oui, parce qu'il raconte des histoires. Ou bien ils se font des illusions. La plupart d'entre eux se croient beaucoup mieux qu'ils ne sont.
Il y a une idée qui revient assez souvent dans vos mémoires, c'est qu'au fond, on ne peut pas grand-chose.
On peut choisir. Voilà. On peut choisir à certains moments. On peut choisir de rester en France ou de passer dans la France libre. On peut choisir, lorsque l'on est outre-mer, d'avoir une politique conservatrice ou une politique de décolonisation. On peut choisir, quand on devient ministre des armées, d'appliquer la politique du général de Gaulle, ou bien de la refuser et de partir. On peut choisir, oui. Mais, quand vous avez choisi, ensuite...
Faut assumer.
Vous savez pas forcément l'histoire que vous allez faire. Vous faites l'histoire, mais vous savez pas celle que vous allez faire. En 1940, je choisis. Mais contrairement au général de Gaulle qui croit à la victoire, moi j'y crois pas. J'ai commencé à croire à la victoire à la fin de l'année 1941. Donc 18 mois plus tard.
Quand Georges Pompidou meurt, vous choisissez de ne pas être candidat aux élections présidentielles.
C'est clair, parce que Jacques Chaban-Delmas, qui se faisait des illusions, était décidé envers et contre tout à être candidat. Et si j'avais été moi-même candidat aussi, eh bien, vous imaginez les deux anciens premiers ministres de Georges Pompidou se présentant l'un contre l'autre. Nous offrions à François Mitterrand une magnifique campagne, il aurait été élu 7 ans plus tôt.
Or, Giscard l'a été. Ensuite, vous continuez à exercer des fonctions politiques importantes, vous êtes aussi maire de Sarrebourg, qui est quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui vous intéresse.
J'aime beaucoup.
Mais, au fond, c'est déjà presque votre quatrième vie qui se prépare, et cette quatrième vie, nous en parlerons lors d'un autre entretien, parce qu'elle est très intéressante, c'est cette vie en tant que chancelier de l'Institut.
Oui, c'est très intéressant.
Oui, avec ce que vous venez de faire pour Chantilly, en fait.
Je suis très heureux.
Oui, vous venez de sauver Chantilly, par exemple, on peut dire ça avec avec les gens avec qui vous parlez, mais vous venez de faire cette dernière chose qui est très importante et qui appartient vraiment au patrimoine français. Mais c'est la fin de notre entretien, on peut pas. J'avais d'autres images à vous montrer, je vous les montrerai pas. Enfin, je voudrais juste vous poser une dernière question, Pierre Messmer. Et je regrette qu'on puisse pas parler de cette quatrième vie qui vous rend heureux et que vous accomplissez d'une manière tout à fait, je le dis, sans flatterie, remarquable. Est-ce que vous trouvez que cette France de 2005 vous rend optimiste ou pessimiste?
Je suis ni optimiste ni pessimiste parce que je crois à la capacité des Français de faire tout ce qui est bien ou tout ce qui est raté, d'ailleurs.
Ça, c'est une phrase de pessimiste.
Par conséquent, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je dirais que cette France me rend quand même moins heureux que celle des années 60.
Pourquoi ?
Mais parce que je ne sens plus ce mouvement en avant. Je ne sens plus cette croissance des Trente Glorieuses. Je ne sens plus cette politique étrangère du général de Gaulle qui remuait le monde, même si nous n'avions pas toujours les moyens. Je ne sens plus ça. Je sens une sorte d'affadissement.
Alors, il y a une sorte de post-scriptum à ma question. François Mitterrand était un adversaire notable et il faut dire assez doué quand même.
Oui, très doué.
Oui. Je suis quand même frappé de voir que cette génération née finalement durant la Première Guerre mondiale est confronté dans sa prime jeunesse à la guerre, à l'occupation, à Vichy, à la résistance, à la peur, au danger. Je pense notamment aux trois évasions de François Mitterrand, qui ont même été très très courageuses.
À la décolonisation.
À tout ça. Bon, cette génération avait peut-être quelque chose de plus que les générations de la paix.
Oui, je crois. Nous avions été forgés par la guerre.
Et ça s'est perdu. Merci Pierre Messmer de nous avoir accordé cet entretien qui, comme vous le savez, passera sur l'ensemble des réseaux de TV5.